Bonjour et bienvenue sur Mizan TV. L'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir aujourd'hui Ali Habibi à l'occasion de la sortie de son livre Sagesse sur le couple pour des relations épanouies, publié aux éditions Albaïna. Ali Habibi, bienvenue sur Mizan TV.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Je rappelle que vous êtes psychologue, spécialiste du couple et de la famille. Dans votre livre, vous partagez des sagesses et des réflexions sur les relations de couple et sur le cheminement spirituel. Alors tout d'abord, quels sont les secrets d'une relation conjugale épanouie?
Alors, des secrets, il y en a plusieurs, mais si on devait donner quelques petits ingrédients, il me semble nécessaire de rappeler le respect. La première des choses, c'est de respecter l'autre, de respecter la personne qui est en face de nous et de ne pas voir l'autre simplement comme un être vivant avec des os et une chair et de la chair, mais de le voir aussi comme une âme qui a été créée par Dieu. Une personne en face qui tend vers le fait justement d'être un serviteur ou une servante de Dieu. Et je pense qu'en ayant déjà ce regard-là, ça peut aider à avoir déjà un peu plus de respect. Le deuxième ingrédient que je pourrais donner, ce serait l'empathie, de faire preuve d'empathie, d'essayer de se dire, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas et je ne dois pas tout interpréter parce que je vais souvent me tromper si j'interprète continuellement. Et que si je ne comprends pas une situation, si je ne saisis pas pourquoi mon partenaire ou ma partenaire a dit ou a fait ceci, bah je vais essayer d'aller chercher à comprendre le pourquoi, sans juger, justement en faisant preuve d'empathie et en se disant, en essayant de me mettre à sa place et en essayant de comprendre les objectifs. Parce que souvent, ce qui a derrière les comportements de tout un chacun, c'est des besoins. Qu'on a et des besoins qui peuvent être en tout cas et qui sont souvent légitimes. Le troisième des ingrédients, alors certains me reprocheront de ne pas l'avoir mis en premier, mais c'est mon réalisme qui fait que je ne le mets pas forcément en premier, mais s'il peut être en premier, c'est tant mieux, c'est l'amour. C'est le fait justement d'aimer l'autre et de chercher à l'aimer, de chercher justement à se sentir aussi aimé. C'est des besoins que nous avons tous, mais je ne l'ai pas mis en premier. Pourquoi? Parce que il est possible que cet amour ne soit pas immédiatement présent, ou en tout cas immédiatement perçu ou ressenti. C'est possible. C'est possible que des personnes se marient parce que elles se plaisent un maximum et qu'elles se mettent d'accord sur certaines choses. Elles ont des valeurs communes et elles vont, pour pouvoir respecter les commandements religieux, ne pas se fréquenter plus que ça et donc s'unir. Et l'amour peut se construire et apparaître par la suite. Alors il peut être déjà là, mais il peut venir par la suite. C'est pour cette raison que je ne l'ai pas mis en premier lieu. Mais l'amour me semble aussi extrêmement important. Peut-être même que c'est le plus important. Parce qu'en réalité, le respect et l'empathie sont des signes ou des signaux ou des moyens d'aimer ou de montrer une forme d'amour. Parce qu'il y a plein de formes d'amour différentes. Le problème qu'on a, c'est qu'on a souvent une forme en tête, voire deux quand on fait un gros effort. Et c'est assez réducteur. Et quand on n'est pas dans ces catégories d'amour qu'on a en tête, les représentations qu'on a pu avoir, on a l'impression de ne pas aimer ou de ne pas être aimé, ce qui est faux. Vous savez que dans la langue arabe, par exemple, il y a environ 40 ou 50 synonymes du mot amour et que chaque mot a sa propre définition, son propre état. Alors tous les états ne sont pas forcément toujours top ou recommandables, hein. Celui qui est fou d'amour réellement, qui perd la raison, on va pas dire que c'est génial. Mais on pourrait se dire que s'il a atteint ce niveau-là, c'est déjà une forme d'amour qui peut même faire perdre la raison. Mais donc on peut se sentir et on peut aimer sous plein d'autres formes, et donc le respect et l'empathie en font partie.
Quelles sont les attentes réciproques des femmes et des hommes à l'intérieur du couple?
Bah, d'être épanoui, de se sentir aimé, de se sentir respecté, d'avoir la sensation que le partenaire répond au maximum aux besoins qu'on a. C'est-à-dire que si on se met en couple, c'est avant tout une démarche égoïste. On est en couple parce qu'on a besoin de l'autre, parce qu'on ne peut pas se suffire à soi-même. Et que l'autre va être là ou est censé être là pour pouvoir nous apporter ce qu'on ne peut pas avoir autrement. Donc c'est plutôt égoïste. Mais ce n'est pas parce que c'est plutôt égoïste que c'est mal. Pourquoi? Parce qu'il y a un échange, il y a un partage. Je reçois pour rendre, je donne et je reçois en échange et tout le monde en profite et tout le monde est gagnant. Donc dans les attentes réciproques, il y a le fait de trouver en l'autre la réponse à la plupart des besoins qu'on a. C'est-à-dire que la plupart des couples qui dysfonctionnent, qui vont mal, vont être des couples qui ne vont pas voir en l'autre un minimum de réponse à certains de leurs besoins. Et c'est ça qui va les faire souffrir. Et de l'autre côté, ce qui répond aussi un peu à la première question, la plupart des, une des, un des secrets de la plupart des couples qui fonctionnent, donc qui sont bien dans leur relation dans un temps assez large, sont des couples qui sont des individus qui sont dans un couple, mais des individus qui étaient déjà dans une forme de bonheur avant même d'être en couple. Ils n'ont pas attendu que que le partenaire les rende heureux ou heureuses. Ils n'ont pas attendu que les mariages leur donnent ce bonheur qu'ils attendent tant. Non, ils sont déjà bien, plus ou moins dans leur peau. Ils sont déjà plutôt épanouis et heureux dans leur vie, c'est-à-dire par rapport à leur vision du monde, par rapport à leur place sur Terre et dans l'existence, et par rapport à leur objectif de vie, ils sont plutôt équilibrés. Et ils vont juste choisir un partenaire ou une partenaire qui va continuer à les accompagner dans leur bonheur qui était déjà présent initialement. Ça va être plutôt un des ingrédients des couples qui fonctionnent. Si je ne suis pas bien, pas heureux, et que j'attends que l'autre vienne répondre à ce besoin-là qui est d'être heureux, ça risque d'être un peu compliqué.
Poursuivre là-dessus, quels sont les facteurs de fragilisation d'un couple?
Alors, le manque de respect, ça c'est quand même quelque chose d'assez. Et c'est très fréquent. C'est-à-dire que même des couples qui s'aiment peuvent ne pas se respecter parfois. Et quand c'est trop souvent ou que c'est des formes d'irrespect trop, trop important, ben, ça peut détruire un couple. Aucun être au monde n'aime qu'on lui manque de respect et prend du plaisir à un manque de respect. Sinon, c'est pathologique, c'est une problématique. Si la personne éprouve du plaisir dans ça, et encore, ça serait pas dans ça qu'elle éprouverait du plaisir, mais plus dans ce que ça symboliserait ou à quoi ça renverrait. Mais le besoin d'être respecté, il est vital. Et donc, un couple qui peut être fragilisé, c'est un couple où il n'y a pas de respect, justement. Où un des partenaires ou les deux partenaires ne se respectent pas, ou pas suffisamment. Parce que certains se respectent un peu, mais pas suffisamment. Ça va fragiliser le couple. L'autre élément qu'on peut ajouter, ça va être la confiance. Donc le manque de confiance peut fragiliser un couple. C'est-à-dire que s'il y a eu des trahisons, des tromperies, des choses qui viennent toucher à l'honneur de l'autre personne, ça va fragiliser le couple et faire en sorte que malheureusement que le couple soit moins stable. Donc c'est un élément quand même assez important et assez régulier. Et puis un autre élément, mais qui rejoint en réalité la première question, c'est que quand il n'y a pas de réponse ou pas suffisamment de réponse aux besoins qu'on a, ça peut aussi fragiliser le couple. Il faut voir le couple comme une entité à part. C'est-à-dire que vous avez l'homme, vous avez la femme, ce sont deux individus à part entière, et en étant en couple, ils vont former une autre entité symbolique qui va être le couple. Et cette entité, elle va avoir des besoins qui vont être liés aux besoins de chacun. Et si les deux ne rencontrent pas chez l'autre la réponse aux besoins qu'ils ont, ou alors qu'il n'y a qu'un seul des deux qui va recevoir et que l'autre ne reçoit pas, c'est quelque chose aussi qui va fragiliser le couple. Et si on devait ajouter, oui?
Pour être plus concret, quels sont les besoins, par exemple, de la femme, en général?
Très compliqué de répondre à ça parce qu'il y aura toujours une femme qui vous dira, mais de quoi il parle? Un, c'est pas une femme.
Non, mais on va passer aux hommes après.
Oui, même quand je parlerai des hommes, il y aura des hommes qui diront, mais c'est un homme lui pour dire ça alors que moi c'est pas mon besoin. C'est très compliqué parce que c'est pas si simple que ça.
Je parle de votre expérience,
Alors,
moi.
si je me base sur ce que j'ai pu observer, ce que j'ai pu entendre, et seulement sur ça, donc ceux à qui ça ne correspond pas, tout va bien, hein, c'est pas un souci. Il y a un besoin émotionnel qui va être important, c'est-à-dire c'est de ressentir des émotions, de partager des choses, émotionnellement parlant. Pourquoi? Parce que le partage d'émotions va être une preuve d'amour pour beaucoup de femmes, ce qui n'est pas le cas pour les hommes. Non pas qu'ils n'ont pas d'émotions, mais le partage d'émotions n'est pas une preuve d'amour. En tout cas pour beaucoup d'hommes. La preuve d'amour peut se manifester sous différentes formes. Vous avez par exemple des hommes qui vous diront, quand vous leur posez la question de est-ce que vous aimez votre femme, ils vont dire, bah oui, je suis là, je suis avec elle. Si je suis là, c'est que je l'aime, sinon je ne serais pas là. Et donc il ne va jamais dire je t'aime à sa femme, mais pour lui, il lui dit tous les jours je t'aime parce qu'il est présent tous les jours et il est avec elle depuis tant d'années. Ce qui va être complètement insuffisant pour la femme parce que ça ne répond pas à son besoin. Donc lui, il pense répondre à son besoin, mais elle ne reçoit pas de réponse parce que son besoin, il va passer par des preuves d'amour. Et les preuves d'amour, ça va être le fait bah, qu'il lui raconte sa journée. Ou qu'il l'écoute, elle, lui raconter sa journée, ce qui peut être une torture pour certains hommes parce qu'ils ne comprennent même pas l'intérêt de pourquoi tu me racontes ta journée, en fait. Je comprends pas. Si tu me racontes ta journée, c'est que tu me parles de problème, donc tu veux que je te donne des solutions.
À part ce besoin émotionnel, pour les femmes, il y aurait quoi d'autre?
Alors, le besoin émotionnel, le besoin d'être aimé, le besoin d'être respecté, le besoin d'être valorisé. C'est-à-dire que beaucoup de femmes vont avoir be ce besoin, encore une fois, hein, je prends des précautions parce que c'est pas le cas chez toutes, mais vont avoir ce besoin d'être un peu unique. C'est-à-dire, aux yeux de leur mari, d'être un être particulier. Et ce qui est le cas, parce que s'il s'est marié avec cette... Il y en a quand même quoi, 7, 8 milliards d'habitants sur Terre. Si vous vous mariez avec une personne, pour ceux qui restent monogames, si vous vous mariez avec une personne, c'est que vous l'avez choisie parmi des milliards. Alors, techniquement, pas parmi des milliards, mais vous l'avez choisie, et donc elle est unique. Elle a une particularité à vos yeux. Seulement, la femme va avoir besoin de le voir, de l'entendre, de le ressentir régulièrement. Donc ça, c'est un besoin qu'on peut observer chez certaines femmes. Elle va avoir besoin de partager des choses, des émotions, comme je vous disais tout à l'heure, donc par l'échange. Elle va avoir besoin d'être aidée, d'être estimée. Mais, vous voyez que c'est des besoins, j'ai envie de vous dire, un peu universels. Même les hommes ont ces besoins-là, mais c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que globalement, les hommes et les femmes vont un peu avoir les mêmes besoins, seulement ils vont se matérialiser sous des formes différentes. Donc vous avez des hommes qui vont avoir besoin de beaucoup parler. Et d'autres hommes, il ne faut surtout pas leur parler. Leur besoin, c'est d'être calme dans leur coin. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas un homme? Non, les deux sont des hommes. Pareil chez les femmes. Maintenant, quand on généralise un peu, ce qui est toujours un peu dangereux quand même, mais quand on généralise un peu, c'est juste que la matérialisation de ces besoins va être un peu différente. Chez les hommes, on peut remarquer qu'il y a une tendance quand même au respect qui va être très importante. Le besoin de se sentir respecté, d'être respecté, ça va être plus important que de se sentir, pour certains, que de se sentir aimé. Mais pourquoi? Parce que être respecté, c'est aussi être aimé. Vous voyez comment les choses peuvent se joindre les unes aux autres? C'est que on a souvent tendance, malheureusement, à faire cette erreur de penser que parce que les hommes ont besoin de se sentir surtout respectés, l'amour n'a pas beaucoup d'importance pour eux. Non, c'est faux. Parce que le respect est aussi une preuve d'amour. Et c'est aussi un amour de sa propre personne. Donc, toujours délicat pour moi de répondre à ce genre de questions,
Mais le
même avec
reste.
l'expérience que j'ai. Pourquoi? Parce que même le discours que j'entends de la population que je rencontre, que ce soit les patients, que ce soit les gens que je vois dans les formations ou les séminaires, il y a un discours que j'entends, mais derrière moi, je vais aussi l'interpréter, je vais l'analyser, et ce n'est pas toujours ce que j'entends qui est réellement ce qui est. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est délicat. Moi, je dirais qu'au fond, il y a des différences, c'est vrai, quand même, entre les hommes et les femmes qu'on peut voir comme celles que je viens un peu de signifier.
Pourquoi je dis ça? C'est par rapport aux besoins que va exprimer le partenaire dans le couple, et justement qu'en écoutant par exemple cet entretien, l'homme par exemple là par rapport aux femmes va être plus attentif à ses expressions émotionnelles, et l'inverse,
Oui.
vous avez parlé du respect pour les hommes, est-ce qu'il y en a d'autres par exemple?
Oui, il y en a d'autres, mais c'est juste ce que vous dites, et ça serait peut-être intéressant que je donne aussi un exemple par rapport à ce que j'ai dit avant, qui pourrait peut-être aider les gens à mieux comprendre ce qui se joue dans leur relation. Une des choses qu'on voit souvent, par exemple, ça va être ben, l'homme quand il rentre du boulot et que la femme lui dit ben, alors comment s'est passée ta journée, mon chéri? Il dit, mais pourquoi tu veux que je te raconte ma journée? Parce qu'en tant qu'homme, je me dis que si je parle, c'est pour parler d'un problème, parce que j'ai pas besoin de parler, ou j'ai pas l'envie de parler. Et si j'ai un problème, je veux bien accepter l'idée d'en parler. Mais si j'en parle, il faut que tu me donnes une solution, sinon je perds mon temps. Vous voyez, c'est très. Donc si je te raconte ma journée, parce que tu veux l'écouter, c'est que tu sous-entends que tu as des solutions aux problématiques que j'ai rencontrées. Un, je suis pas sûr. Deux, j'ai pas forcément l'envie de revivre ma journée, parce que les hommes sont aussi séquentiels, c'est-à-dire que ma journée de travail, elle est passée, ça y est, je suis passé à autre chose. Là, je suis à la maison, je veux surtout pas parler de boulot. Je suis passé à un autre stade. Donc le fait que tu me renvoies au boulot, et encore pire si ça s'est mal passé, ça va me faire souffrir et j'en ai pas le désir. Et donc je vais mal interpréter déjà le témoignage, quoi, le besoin de mon épouse en pensant que soit elle veut trouver des cherche les problèmes et elle veut proposer des solutions, soit elle veut me renvoyer à quelque chose qui va me faire souffrir, ce qui n'est pas du tout le cas. Pour elle, ce qui se joue, comme je disais tout à l'heure, c'est un partage émotionnel. Raconte-moi ma journée, comme moi quand je parle à ma meilleure copine, on peut rester des heures au téléphone, je lui raconte exactement chaque... Et c'est quand vous écoutez des fois, c'est quand même assez intéressant, c'est que chaque situation est racontée. Mais pourquoi tu ramènes tous ces éléments ou tous ces détails? Mais parce que pour elle, c'est des émotions qu'elle a vécues, qu'elle partage à travers le fait de rappeler ce qu'elle a vécu. Et elle va le partager à la personne qu'elle aime. Une personne qu'elle n'aime pas, jamais lui raconte sa journée. Donc pour elle, c'est une preuve d'amour. Donc elle attend de moi que je lui raconte ma journée comme étant une preuve d'amour. Elle va se sentir aimée si je lui raconte ma journée. Elle se sentira bien, quelle que soit ma journée. Hein. Le détail que je vais amener n'a aucune importance. Sauf s'il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'irrespect à son égard. Mais sinon, ça n'a aucune importance pour elle. C'est juste symboliquement, ça va renvoyer à une preuve d'amour et elle va se sentir bien. Là où l'homme, pour lui, c'est un non-sens. C'est soit tu as la solution, soit tu n'as pas de solution, donc je ne comprends pas. À l'inverse, si on inverse la situation, l'homme qui a ce besoin de compétence, donc un besoin de réaliser les choses par lui-même, de réussir les choses, d'être ce qu'il est censé être dans son imaginaire, va lui interpréter le fait de raconter sa journée ou de parler à son épouse de certaines problématiques comme quelque chose qui renverrait à son imperfection, à ses manques, au fait qu'il n'est pas réussi. C'est pour ça que pour certains hommes, c'est difficile d'aller en consultation. Parce que ça renverrait à cette idée de j'ai pas été à la hauteur. Et là, ça se matérialise parce qu'on va voir quelqu'un d'autre pour régler les problèmes que j'ai pas pu résoudre moi-même. Attention, c'est pas tous les hommes, hein. Vous avez des hommes qui viennent pas par pudeur, d'autres qui viennent pas parce que ils veulent pas parler à un inconnu. Mais vous avez certaines catégories d'hommes qui ne vont pas venir, qui ne vont pas voir même d'imam ou de spécialiste ou de psy, etc. Parce que leur besoin de compétence, il est remis en cause. Et c'est très douloureux pour eux à ce niveau-là. Ce qui n'est pas forcément le cas de la femme. Donc vous voyez que là, on est dans des petites différences. L'idée, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue symboliquement derrière la demande que je ne comprends pas ou que j'interprète ou que je comprends comment moi je le percevrais si c'était moi qui le faisais. En se disant, ben, en face de moi, c'est pas moi. On peut avoir le même langage, utiliser les mêmes mots, définir des besoins qui paraissent identiques, mais ils ne seront pas identiques parce qu'on n'est pas les mêmes personnes. Donc c'est de se dire, voilà, c'est différent, et parce que c'est différent, il faut que soit que j'essaie de comprendre quelle est cette différence, ou alors d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue symboliquement pour la personne quand elle réclame ça, pour essayer de lui donner ce dont elle a besoin. Si elle a besoin d'amour, il faut que je lui donne plus d'amour. Sur le côté du respect chez les hommes, ça va être par exemple, ben, sa femme, si elle lui parle en augmentant un peu les décibels, il va se braquer. En lui disant, mais pourquoi tu m'agresses? Pourquoi tu parles fort? Mais baisse d'un ton, parle moins fort. Alors qu'il est possible qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a augmenté. Pourquoi? Parce que lui va interpréter ça comme quelque chose d'irrespectueux. Si tu me parles fort, c'est que tu ne me respectes pas. Alors qu'à ce moment-là, elle peut parler fort juste parce qu'il y a une émotion, ou alors il y a du bruit, ou peut-être qu'elle parle fort naturellement parce que dans sa famille, ils étaient nombreux et qu'il fallait parler fort pour survivre, et donc elle parle continuellement fort, ce qui va être insupportable pour son mari parce qu'à chaque fois, il aura l'impression qu'on ne le respecte pas. Ce qui n'est pas le cas. Vous voyez? Donc j'ai l'impression qu'on ne respecte pas, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne me respecte pas. C'est mon impression, c'est mon ressenti. Mais comme je vais avoir ce ressenti-là, ça témoigne du besoin que j'ai. Le besoin que j'ai, c'est de me sentir respecté. Ça va être vital ou très important pour moi.
Est-ce que l'arrivée prématurée des enfants est-elle une cause de fragilisation de la relation conjugale dans la mesure où ces derniers vont monopoliser le temps et l'énergie des parents au détriment de leur couple?
Potentiellement, oui. Ça peut fragiliser le couple conjugal, mais ça va renforcer le couple parental. Oui, donc il y a deux couples. Il y a le couple conjugal, le couple parental. Ça va fragiliser le couple conjugal. Pourquoi? Parce que le couple conjugal aura moins de place, moins d'espace. Les besoins du couple conjugal pourront être moins assouvis, forcément, quel que soit le besoin. C'est pas forcément de l'ordre de l'affection ou de l'intimité. Juste du temps passé ensemble ou d'échanger, c'est plus totalement possible. Les deux vont se focaliser, surtout la mère va se focaliser sur l'enfant, et tant mieux, parce que sinon l'enfant il survit pas. Donc vous voyez que les choses quand même, Dieu fait bien les choses. Mais c'est-à-dire que même au niveau hormonal, il y a des modifications, il y a des changements qui vont s'effectuer. Donc que ce soit pour les femmes ou que ce soit pour les hommes. Hein. Donc la femme encore plus parce qu'elle porte l'enfant, mais même l'homme. Un homme quand il devient père, il y a quelque chose qui change dans sa vie, dans son monde. C'est-à-dire que les êtres humains, hommes ou femmes, sont de nature égoïste. Peut-être que les hommes un peu plus. Mais les humains sont égoïstes de nature. Quand un enfant arrive, il se passe quand même quelque chose d'assez magnifique, qui est que il n'y a plus que votre personne qui compte. Il y a un petit bout d'être vivant qui commence à prendre de la place et parfois même qui prend plus de place que vous. C'est pour ça que vous voyez surtout dans les anciennes générations, même dans l'actuel, hein, mais on le voit plus nous quand on parle par exemple de nos parents, vous posez la question à la plupart des gens de est-ce que tu te rappelles un moment, est-ce que tu as un souvenir où ton père il s'est acheté quelque chose pour lui? Et là, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais il y en a beaucoup, énormément, qui vont dire c'est vrai que j'ai jamais vu mon père acheter un truc pour lui, en fait. Mais est-ce que ça veut dire que mon père, il est extrêmement généreux, c'est naturel chez lui, il est né comme ça? Non. Possible que oui, mais pour beaucoup, non. C'est juste que quand il a été père, il y a une responsabilité qui s'est imposée à lui, qu'il a assumée. Et donc, se faire plaisir était secondaire, voire tertiaire. C'était d'abord le bien-être de la famille qui comptait, parce que c'était son rôle. Et parce que c'était son rôle, il était dans une forme de sacrifice, de responsabilisation de sa position. Et donc, il y a beaucoup de gens, quand vous regardez leur papa, bah, ils n'ont pas changé de vêtements. Il est né, il a grandi, il a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, le papa, il a les mêmes vêtements. Alors que vous, en 2 ans, vous avez changé 10 fois de vêtements. voyez ce que je... Vous voyez là, le décalage qu'il peut y avoir? Ça, c'est quelque chose qui vous renvoie déjà au changement qui s'effectue quand un enfant arrive. Donc ça peut potentiellement fragiliser le couple conjugal, et c'est normal, naturel, mais ça va renforcer, ou ça peut aussi faciliter le renforcement du
On posait
couple
cette question
parental.
par rapport à notre modernité, à savoir qu'aujourd'hui, les couples veulent, entre guillemets, profiter de la relation à deux, alors que pour beaucoup de couples musulmans, en principe, ils ne peuvent pas avant le mariage. Donc s'ils ont un enfant très tôt, ils ne pourront pas profiter, entre guillemets, de
C'est
cette
vrai.
période de d'échange à
C'est
deux.
vrai. Mais c'est juste ce que vous dites. Mais, et un mais important. Si un enfant arrive, c'est pas juste de votre fait ou de votre choix. En tant que musulman, si un enfant arrive, c'est parce que Dieu l'a permis et qu'il l'a voulu. Parce que vous pouvez vous désirer un enfant et faire toutes les causes que vous voulez. Si Dieu veut pas, vous n'avez pas d'enfant. Donc si un enfant arrive même très tôt, c'est que c'est sûrement un bien pour vous. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas pu profiter, comme vous l'entendiez, comme vous le perceviez, d'une relation de couple conjugale unique, et que l'enfant est arrivé à venir un peu bousculer ça, que c'est un mal ou que c'est un problème. Deuxièmement.
C'est dans le sens de la pression sociale qui fait que
Oui.
des couples doivent avoir des enfants rapidement.
Oui, après la pression, on est en train de changer un peu, parce qu'il y a aussi une pression de faut retarder le maximum, justement, et...
Il y a des excès dans les deux
Voilà,
sens.
profitez au max, surtout faites pas d'enfants, sinon vous allez le regretter. Profitez au maximum, et puis ben, arrive un moment où on peut plus faire d'enfants, et là on regrette parce qu'on les a pas fait plus tôt.
Toujours
Donc,
le juste milieu, hein, on
exactement. Le
essaie.
juste milieu, c'est quoi? C'est de se dire, c'est quoi mon désir? C'est quoi ton désir? Et on essaie d'y répondre au mieux de ce que Dieu nous permet de faire. Et ce que Dieu nous aura permis de répondre, ça sera une bénédiction pour nous. Et ce qu'il ne nous aura pas permis de faire, ça sera une bénédiction pour nous. Il faudra l'accepter et le remercier pour ça. Donc si je veux profiter au maximum de mon épouse et qu'elle veut profiter au maximum de moi avant d'avoir des enfants, c'est notre désir. On va faire des causes pour ça. Et si un enfant arrive, on l'accueille. Et ça sera une très bonne chose. Et attention, c'est pas parce que je disais tout à l'heure que ça peut potentiellement fragiliser le couple conjugal que ça va le détruire ou le fragiliser forcément. Ça peut aussi le renforcer. Ça peut aussi le renforcer. Comment? Justement, en fusionnant la vision que je vais avoir du couple conjugal et du couple parental. Que ce sont deux couples qui vont s'unir et qui vont fusionner. Et que, certes, là, on est des parents, il faut qu'on assume, mais c'est pas pour autant qu'on va s'exclure. C'est pas pour autant qu'on va... Alors, il y a des choses qu'on pourra peut-être plus faire pendant une période. On les fera peut-être plus tard. Il y a peut-être des choses qu'on croit ne plus faire, mais qu'on pourrait faire. Il y a des choses qui demanderont juste une logistique différente, une organisation différente pour pouvoir les faire. Et il faut juste se donner les moyens, et ça va dépendre des désirs qu'on a. Mais là, ça renvoie au besoin d'être bien entouré aussi, parce que la problématique qui joue, en fait, je dirais que ce qui va plus fragiliser le couple conjugal à l'arrivée d'un enfant, c'est pas l'enfant. C'est le manque de soutien et d'entourage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi. Depuis... Peut-être tout le temps, je ne sais pas, mais en tout cas depuis très longtemps, dans pratiquement toutes les civilisations, quand un enfant venait au monde, il y avait beaucoup de gens autour. Donc vous avez la maman, le papa, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, les voisins, les commerçants, les éducateurs, qui font partie souvent du même quartier ou du même immeuble. Ils sont tous là pour accompagner l'enfant, et c'est pour ça que vous avez un très beau proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Donc, il y avait 10, 20, 30, 40 personnes pour accompagner un seul enfant. C'est pour ça que les mères, elles n'étaient pas, n'avaient pas ce burn-out que les mamans rencontrent aujourd'hui, parce qu'elles étaient, bah, ça pouvait exister, mais c'était plutôt rare. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas isolées, elles n'étaient pas toutes seules, elles étaient aidées et accompagnées. La mère, elle n'était pas toute seule, on ne l'abandonnait pas. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux, ils ont une grand-mère qui traîne pas à quelques kilomètres, qu'on peut aller voir et déposer les gosses de temps en temps. Peut-être une tante qui, quand elle veut bien le week-end, un peu donner un coup de main. Ça, c'est ceux qui s'en sortent le mieux. La plupart des gens sont isolés, sans entourage, sans la famille. Et donc, ils se retrouvent seuls dans leur couple, maman et papa, à devoir faire à deux le travail qu'on a toujours fait à 20 ou à 30. C'est impossible. C'est pour ça que les parents sont épuisés aujourd'hui. C'est une des raisons. Et ça va fragiliser le couple conjugal. Pourquoi? Parce que le couple parental va forcément prendre toute la place, ou beaucoup trop de place, au détriment du couple conjugal, parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, l'enfant, ben, il ne mange pas. On ne s'occupe pas de lui. Par contre, s'il y avait cet entourage qui pouvait un peu participer, aider, etc., le couple conjugal, il disparaît pas. Au contraire, il a son espace. Il y a toujours quelqu'un pour garder l'enfant. Il y a toujours quelqu'un qui permet au père de se reposer, à la mère de se reposer, et de récupérer, puis de vivre d'autres choses, etc. Et chacun s'entraide. Mais ça, c'était un système qui, quoi, en tout cas, qui en Europe, en Occident, a pratiquement disparu. qui existe encore dans d'autres contrées, mais qui a disparu pour nous et qui est très difficile à assumer. En tout cas, c'est une réalité qui va fragiliser le couple conjugal. Donc je pense que c'est plus ça qui fragilise le couple conjugal, plus que l'enfant et son arrivée. Voilà, voilà.
L'insistance sur la religiosité dans le choix du conjoint est souvent avancée dans le discours religieux. Cette insistance sur ce critère au détriment de tous les autres, comme la personnalité, le tempérament, la culture, le niveau social, économique, n'est-elle pas responsable des malentendus pouvant mener à des séparations précoces?
Totalement. C'est totalement juste. Pourquoi? Parce que il y a des musulmans et des musulmanes qui malheureusement vont se leurrer en pensant que c'est le seul critère auquel il faut faire attention. Et que tout le reste, ça n'a pas de valeur. Ou alors, ça a de la valeur. Mais si celui-ci est valable et bon, alors tout va bien fonctionner. C'est les mêmes personnes qui vont diront s'il est musulman, c'est forcément quelqu'un de bien. S'il est musulman, c'est forcément qu'il ne peut pas faire ça. C'est pas la réalité, ça c'est on est dans un monde de bisounours. Il peut être musulman et être un criminel. Il peut être musulman et malade mental. Il peut être musulman et tyrannique dans sa relation. Il peut être gentil à l'extérieur et être adorable et être un vrai bourreau dans sa relation de couple. Elle peut être très pratiquante et aller à la mosquée, donner des cours et enseigner le Coran et être extrêmement problématique dans sa relation dans le couple. Ou il peut être lui très ou elle. Ils peuvent être plus ou moins paraître plus ou moins équilibré dans leur foi et dans leur pratique, mais être complètement dysfonctionnel dans le relationnel. Parce qu'il y a des problématiques qui ne sont pas réglées, parce qu'il y a des problématiques qui ne sont même pas forcément perçues ou travaillées. Donc c'est une problématique et quoi, ça crée des problèmes que d'aller que dans ce sens-là et de se baser que sur ce critère-là. C'est un critère qui est important, mais ce n'est pas le seul. Le critère qui est important, c'est de que la personne ait une bonne religiosité. Et aujourd'hui, je dirais même qui est une religiosité qui va à peu près dans le même sens que la vôtre, parce que avec les différents courants, etc., vous prenez deux personnes de courants opposés, les deux peuvent être extrêmement pratiquants et en adéquation dans leur courant, vous les mettez ensemble, ça va être une bombe atomique. Donc il faut qu'ils soient en phase, déjà dans leur perception de la religiosité, il faut qu'il y ait des bons comportements de la part de la personne qui est en face, de manière à ce que même si on ne s'entend pas, au moins on va se respecter, on va faire preuve d'intelligence pour essayer de régler les problèmes. Il faut qu'il y ait une attirance, un minimum physique, parce qu'on va quand même partager sa vie avec l'autre, quoi. L'objectif c'est de partager sa vie et d'avoir des moments d'affection avec l'autre si la personne nous repousse ou nous répugne, ça va être compliqué. Il peut avoir la foi qu'il veut, il peut être aussi pratiquant qu'il veut, être aussi pieux qu'il veut. Si vous le trouvez extrêmement moche, vous aurez du mal à aller vers lui physiquement. Donc le comportement et la foi peuvent aider à embellir à vos yeux la personne. Mais si physiquement la personne ne vous convient pas du tout, ça va être un problème. Donc il faut que la personne vous plaise un minimum. Alors si elle vous plaît un maximum, c'est encore mieux. Donc si je fais attention qu'au physique, ça va être problématique. Si je fais attention qu'à la religiosité et rien d'autre, ça va être problématique. Si je ne fais attention que parce qu'il est gentil, il a un bon comportement et que je mets de côté le physique et le religieux, ça va aussi être problématique. Donc l'idée, c'est de prendre, d'avoir une approche holistique où je prends en compte différents pôles, différents facteurs qui vont être religieux et selon la perception aussi que j'ai. Relationnel et au niveau de son comportement et physique par rapport à l'attirance et l'attrait que je peux avoir.
Un autre biais, celui des droits et des devoirs. Peut-on aborder sereinement une vie de couple avec des catégories juridiques?
Avec que ça? Certains pourraient peut-être, j'ai déjà vu,
T'as tes droits, j'ai mes devoirs, j'ai mes
ouais,
droits, t'as tes
j'ai déjà vu
devoirs.
des personnes qui avaient l'air de fonctionner comme ça, mais c'est pas la norme. C'est-à-dire que pour moi, ça reste quand même assez marginal. Et je conseillerais pas de faire ça. C'est-à-dire, ça peut fonctionner peut-être pour quelques profils particuliers qui vont être plutôt rigides sur ces choses-là et pour qui tout ne peut se faire que par ce prisme-là. Mais c'est pas le cas de la majorité des gens. La majorité des gens, faut même c'est-à-dire, connaître ses droits, c'est important. Connaître ses devoirs, c'est vital. C'est pas important, c'est vital. C'est un autre niveau. Pourquoi? Parce que les droits que j'ai. Que l'autre y réponde ou non. Si l'autre y répond, tant mieux pour moi. Mais si l'autre n'y répond pas, c'est pas tant pis pour moi. Si c'était un devoir, c'est tant pis pour l'autre. Auprès de Dieu, je serai compensé par rapport à ce que j'aurais dû avoir que je n'ai pas eu. Par contre, en ce qui concerne mes devoirs, si moi, je n'y réponds pas, personne au monde ne peut y répondre. Et c'est sur ça que je vais être jugé. Donc quand j'ai cette conscience que je serai jugé sur les obligations, ce que j'aurais dû faire, mes devoirs, etc., je vais me responsabiliser. C'est pour ça que nous, on va, en tout cas moi aussi, ce que je vais conseiller à des couples qui sont un peu soit trop axés là-dessus, ou même qui ne sont pas du tout axés là-dessus, c'est de se concentrer sur leurs devoirs et pas sur leurs droits. Parce que la plupart des gens sont bloqués sur leurs droits et non sur leurs devoirs. Donc s'il fallait choisir, il faudrait choisir les devoirs et non les droits. Les droits, Dieu va compenser. Et en réalité, les droits vont venir progressivement, surtout si moi, j'assume mes devoirs et que chacun est dans cette dynamique et dans cet effort de répondre à ses devoirs. Mais si je suis que focalisé sur droits et devoirs, c'est-à-dire qu'on est dans une relation de couple qui est que juridique. Et c'est problématique. C'est-à-dire qu'on va mettre de côté plein de... C'est important qu'il y ait du juridique parce que ça protège. Mais le juridique, c'est des panneaux de signalisation. Ce n'est pas l'objectif du chemin. Ce n'est pas l'objectif de... C'est pas la destination. Et les gens qui ne s'arrêtent que sur du juridique, c'est comme s'ils s'arrêtaient devant un feu rouge et que ça y est, ils ont atteint leur objectif de vie parce qu'il y a le stop ou parce qu'il y a le feu rouge. C'était ça que je visais, c'était le panneau de signalisation. Et ça y est, je suis arrivé à destination. Mais non, le panneau de signalisation, il te permet d'être en sécurité dans la route que tu vas entreprendre, d'être protégé au maximum, de régler certains conflits, certains litiges, pour que tu puisses arriver à destination de la meilleure des manières. Et c'est pour cette raison qu'il faut penser et questionner son rapport à sa vision du couple et pourquoi on se marie. Et en tant que musulman, il y a certes une réponse à des besoins physiques, des besoins moraux, des besoins psychologiques, des besoins émotionnels, des besoins sociaux ou sociétaux, mais il y a un autre besoin qui est pour moi majeur et plus important que tous les autres, en tout cas qui devrait être pour beaucoup de gens, en tout cas s'il l'est, c'est encore mieux, c'est un besoin spirituel. C'est-à-dire que dans ma relation de couple, chez mon partenaire, chez ma partenaire, ce que je vais rencontrer, que ça soit agréable ou non, va être un moyen pour moi de me rapprocher de Dieu. Elle va me renvoyer des choses de moi dont je n'étais même pas conscient, que je ne pouvais pas observer, que je ne pouvais pas voir. Et rien que pour ça vaut la peine de se marier. Parce que le partenaire amoureux va me permettre de voir des choses de moi que je n'aurais pas pu voir avant et donc j'aurais pas pu travailler dessus. Et tout ça permet de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ça c'est la finalité. Mais dans le moyen d'atteindre cette finalité, il y a plein de choses qui peuvent être agréables, il y a plein de choses qui sont risquées, il y a des choses qui sont parfois dangereuses, et le droit, en tout cas le juridique, va venir un peu cadrer, sécuriser pour garantir que ça se passe bien. Mais donc si je me focalise que sur les droits et les devoirs, je pense que je loupe l'essentiel et je passe à côté de beaucoup de bonnes choses.
Vous parlez dans votre livre du biais de négativité, faisant référence au fait que l'être humain se rappelle davantage des éléments négatifs que positifs qui lui apporte son partenaire. Pouvez-vous nous en dire plus?
Alors c'est pas que le partenaire, hein, ça c'est humain et chez, par rapport à n'importe quel autre être vivant, j'ai envie de dire. On a cette faculté, donc d'où le biais de négativité, de se souvenir plus et plus facilement des choses qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, qu'on perçoit mauvaises ou négatives, plus que les choses positives. Vous prenez une mère qui accompagne sa fille toutes les fins d'année, de toute sa scolarité, de la primaire au spectacle de fin d'année, et qui y va tous les ans, qui est présente, ou un père, ou les deux, qui sont présents, et l'enfant voit ses parents présents, elle est contente, elle est contente, elle est contente tous les ans, tous les ans. Elle arrive en CM2, les parents sont pas là pour X ou Y raison. Elle va leur en vouloir. Et elle va oublier toutes les fois où ils ont été là. Vous prenez dans une relation de couple quelqu'un qui fait des efforts pour vous au quotidien, puis un jour a fait quelque chose que vous avez estimé comme étant un manque de respect assez important, ou même un manque de la personne. Vous allez oublier tout ce qu'elle a fait, vous dire, mais là, ça c'est inacceptable, elle a fait ça, c'est pas possible. Ou alors vous allez vous souvenir que de ça. Ça c'est humain. Par contre, le fait que ça soit humain, ça légitime pas la chose, ou en tout cas, il faut pas juste rester là-dessus. Il faut essayer justement de combattre la chose et de s'en libérer. Et ce qui est intéressant, c'est que l'islam vous apprend à vous en libérer. Comment? Déjà dans votre relation avec Dieu. C'est-à-dire que ce problème de biais de négativité qu'on a entre humains, Dieu ne l'a pas avec nous. Il a l'opposé. C'est ce qu'on appelle un biais de positivité. C'est-à-dire que si vous faites une bonne action, vous êtes récompensé. Et parfois, la récompense est multipliée. Si vous avez l'intention de faire une bonne action et que vous n'avez pas pu la faire, vous êtes récompensé quand même. Si vous avez fait une mauvaise action, il n'y a qu'une mauvaise action qui vous est comptée, ce n'est pas multiplié. Et si vous aviez l'intention de faire une mauvaise action et que vous ne l'avez pas faite, ce n'est pas compté. Et vous voyez par exemple dans plein d'actes qu'on peut faire au niveau religieux, par exemple quand vous lisez le Coran, pour chaque lettre c'est 10 hasanat, les prières qu'on fait par jour, une prière ça en vaut 10, parce qu'à la base c'était 50. Vous voyez, c'est toujours multiplié. Les bonnes actions sont toujours multipliées, donc positivement, et les mauvaises, il n'y a pas de multiplication. Ça s'arrête toujours à un élément. Ce qui est intéressant quand on compare les deux, c'est que dans ce biais de négativité qu'on a entre humains, c'est que les spécialistes disent qu'il faudrait entre 5 et 10 bonnes choses pour en oublier une mauvaise. Et avec Dieu, on a exactement l'inverse. une mauvaise, c'est une mauvaise, et une bonne peut valoir 10, et parfois même plus. Vous voyez, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, à méditer, je pense, pour essayer de s'en inspirer et essayer derrière de résister face à ce biais de négativité. Alors, on va avoir ce réflexe hein, de se dire, ah là, elle a fait ça, ou il a fait ça, etc. Mais tout de suite, c'est d'essayer, ou le plus rapidement possible, c'est d'essayer de se reprendre en se disant, Dieu ne se comporte pas comme ça avec moi. Je vais essayer de m'en inspirer pour me comporter avec l'autre de cette manière. Comment? En tendant vers une justice. Est-ce que c'est juste? Pas forcément. En tendant vers une forme de reconnaissance. Est-ce qu'en réagissant comme ça, je ne fais pas preuve de manque de reconnaissance, justement? Si. Donc je vais essayer de tendre, et ça c'est aussi un des ingrédients des couples qui fonctionnent, qui peuvent être épanouis et qui fonctionnent, c'est la reconnaissance. C'est d'être le plus reconnaissant possible. Même ce qui vous paraît être le plus basique et le plus élémentaire. Ce n'est pas parce que vous avez grandi en étant éduqué par rapport à une vision des choses où ce que vous allez faire est pour vous normal et basique que ça ne mérite pas un merci. Le merci que vous allez recevoir, il va vous donner de la force, ça va créer une énergie positive qui va vous donner envie de continuer, qui va alimenter la chose et qui va vous pousser même à surpasser votre niveau et devenir meilleur. Donc la reconnaissance est très très importante et c'est pour ça d'ailleurs que vous avez cette tradition prophétique où le prophète Assatou dit que il n'y a pas de reconnaissance envers le créateur s'il n'y a pas de reconnaissance entre les créatures. Donc si je suis ingrat envers envers un autre humain, ma reconnaissance envers Dieu peut ne pas être acceptée. Ça vous montre l'importance de la reconnaissance entre nous, et puis l'importance de la reconnaissance envers Dieu. C'est une des caractéristiques des prophètes, par exemple, où ils sont des fois décrits comme étant des êtres très reconnaissants. Ils étaient toujours reconnaissants. Le prophète, quand il priait la nuit, et que Aïcha lui dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Est-ce que je ne peux pas être un serviteur reconnaissant? Vous voyez, toujours cette idée d'être le plus reconnaissant possible envers Allah, subhanahu wa ta'ala, mais aussi envers les êtres vivants. Votre femme fait quelque chose de basique, de banal. Ça peut être vous faire à manger. Imaginons qu'elle aime cuisiner. Qu'elle a été éduquée à ça, que pour elle c'est normal, que c'est son rôle, et que si elle le fait pas, c'est la fin du monde, et ben ça mérite quand même un merci. Si vous le faites pas pour elle, il n'y a rien qui change. Elle a pris du plaisir, c'était normal. Mais il faut quand même la remercier. Donc des petits gestes du quotidien méritent de la reconnaissance. Et la reconnaissance est un moyen de lutter contre ce biais de négativité, comme la recherche de justice et l'empathie, et sont des moyens, des ingrédients pour lutter contre ce biais de négativité, parce que c'est un biais qui est humain, mais qui est dangereux parce qu'il amène à l'injustice.
Pour terminer, une question délicate. La relation homme-femme doit-elle être symétrique ou complémentaire?
Complémentaire. Pourquoi délicate? Pourquoi c'est une question délicate? C'est pas délicat du tout. Moi je dirais complémentaire. C'est parfois peut être symétrique chez certains, mais c'est pas la norme et c'est pas systématique. Donc puisque on part de la norme chez les êtres humains ou en tout cas de faut partir de la base. La base c'est que un homme et une femme sont certes des êtres vivants et des êtres humains. Tous les deux ont un corps, ont des capacités, ont des organes. Tous les deux peuvent avoir une foi, une relation avec Dieu, une relation avec les hommes, ont des capacités, etc. Mais ils sont différents. Donc ça va pas. Faut pas forcément que ça soit. C'est même le fait de chercher un équilibre dans le couple, c'est pas cette idée du 50-50 dans tout. Ah non, il y a des choses où ça sera 90-10. Et c'est pas un problème. Parce que ça doit être 90-10 par rapport aux capacités, ou par rapport à ma fonction, ou par rapport à mon rôle, ou à ma responsabilité. C'est à moi d'assumer cette chose-là à 90%. Parfois peut-être même à 100%. Et c'est pas un problème. Mais il y aura d'autres choses où ça sera inversé. Et on va pas compter les choses en se disant, bah, la dernière fois c'est 90-10, donc faut qu'il y ait un autre truc 90. En fait, ça va s'équilibrer automatiquement. Donc il faut que ça soit complémentaire. Je vais apporter des choses qu'elle ne peut pas s'apporter elle-même. Elle va m'apporter des choses que je ne peux pas m'apporter à moi-même. On va s'apporter mutuellement des choses qui sont identiques, et puis des choses qui vont être différentes. On va avoir des besoins qui vont être identiques, des besoins qui vont être différents, et on va partir de là. Et il faut pas aussi, je pourrais conclure peut-être, terminer sur une chose en parlant de ça. Ça m'a fait penser à une autre chose qui est un. Que je repère comme étant en fait un problème au fond, qui vient un peu de certaines idéologies qui a été énormément diffusée dans le développement personnel chez beaucoup, et notamment qui est très 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 diffusée dans la communauté. C'est une croyance, qui est une fausse croyance pour moi, mais qui est vendue comme une croyance absolue, qui voudrait dire que ce qu'un homme peut faire, n'importe quel autre homme peut le faire. En gros, c'est utilisé pour la motivation, donc tu es capable de, tu peux, si l'autre a réussi, toi aussi tu peux réussir, s'il a monté l'Everest, tu peux monter l'Everest, si c'est devenu un virtuose de la du piano, tu peux, si tu travailles, etc. C'est complètement faux. C'est pas vrai, c'est un mensonge. Mais quand on part avec cette idéologie-là, avec cette croyance-là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne de cette idée qu'on est tous pareils, on a tous la même capacité. Ce qui n'est pas vrai, on n'a pas tous les mêmes capacités. Il y a des capacités qui sont identiques. Et ça, je parle des hommes avec un grand H. Il y a des capacités qui sont différentes. Il y a des choses que certains hommes peuvent faire que je suis incapable de faire, même si je travaille toute ma vie pour le faire. J'y arriverai pas. J'arriverai pas au même niveau qu'eux. Et c'est pas un problème, parce que je vais être capable, moi, de faire d'autres choses. J'irai même plus loin d'un point de vue religieux et spirituel. Il est possible qu'on n'ait même pas les mêmes âmes. C'est pour ça qu'on n'a pas la même sensibilité quand on écoute le même Coran. Donc vous avez la parole de Dieu qui est le Coran. Il y a un verset qui va vous bouleverser et qui va rien me faire à moi. Est-ce que c'est un manque de foi? Non, c'est juste que mon âme n'est pas touchée par ce verset en particulier, mais il va peut-être être touché par un autre verset qui parle d'autre chose, sous une autre forme. Les capacités spirituelles qu'on a, elles ne sont pas identiques. On a tous un objectif qui est de cheminer, de se rapprocher de Dieu au maximum, mais on n'a pas tous la même capacité. On n'a pas tous les mêmes désirs, on n'a pas tous le même. Alors, quel que soit le niveau de foi, on n'a pas tous les mêmes tentations, on n'a pas tous les mêmes facultés. Il y a des gens qui ont des facilités à jeûner. Ça les dérange en rien, ils jeûnent pas, c'est pareil. Vous avez des personnes, quand ils jeûnent, c'est une torture. Et ainsi de suite. Vous voyez, que ce soit pour la lecture du Coran. Donc, même au niveau des âmes, c'est pas pareil. Au niveau des corps, c'est pas pareil. Et encore plus, donc là je parle d'êtres qui sont fabriqués de la même manière, déjà, c'est différent. Donc, que dire d'un homme et d'une femme où il y a encore plus de différences? Et dans un couple, l'objectif, je pense, en tout cas, c'est d'être complémentaire et de se compléter au mieux.
Merci Ali Habibi.
Merci à vous.
C'est la fin de cet entretien. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Sagesse sur le couple pour des relations épanouies, publié aux éditions Albaïna. Pour nos auditeurs, donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager cet entretien, et à très bientôt sur Mizan TV.